idée comme ça.
Pas en faveur de la bourgeoisie, hein.
Oui, mais donc c'était une menace. C'était une menace pour l'ordre établi, pour leurs intérêts.
Pour tous les parasites.
Ouais, pour tous les parasites. Ouais.
Aussi bien parlementaires que bourgeois.
Ouais, ouais. Ah, ben oui. Oui. Donc, à partir du moment où ça fait. Où ça, c'est un mouvement et c'est une réalité, parce que ça s'est. Pendant trois mois, ça s'est quand même construit. C'est qu'il y avait quelque chose de. Il y avait, au-delà de l'utopie, il y avait une espérance. Une espérance, et puis. Et donc, une menace pour la République de Thiers, qui ne disait pas son nom.
Oui.
Donc, en fait, on est toujours dans la République de Thiers. Hein. Bon, encore aujourd'hui. Hein.
Bah, oui. Oui, ça n'a pas beaucoup. Ouais. Pas c'est beaucoup évolué, ouais. En fait. Ouais,
c'est... Toujours le. Ouais.
Donc, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, faites de la propagande. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Je sens ça de temps en temps, ça choque. Mais... Faites de la propagande. Ouais. Anarcho-syndicaliste, en tout cas. Et pour qu'on change les choses rapidement, parce que. Hein? Vous n'allez pas me faire laisser travailler jusqu'à 67 ans, merde.
Ça, c'est dégueulause.
Hein, c'est pas humain. Parce que j'y arrive quand même, mais je vais finir en beauté, pas sur une barricade, mais...
Non, mais c'est... Voilà, là aussi, c'est la condition ouvrière et... Là, mérite qu'on se... Qu'on s'organise pour que ça change.
Alors, on vient d'entendre le chat miauler.
Oui, miaou.
Donc, je sais pas, tu veux faire une conclusion sur la République ? Oui, effectivement, République, il faut spécifier, République bourgeoise, République sociale, des démocraties directes, démocraties semi-représentatives, ou de délégation, je sais pas. Bah, nous, on a fait notre choix.
Ouais. La sociale, ça c'est bien, ça. Pas de République, mais la sociale. Voilà, pour moi, ça sera la sociale.
Eh ben, on va terminer là-dessus. On va... faire quelques annonces. D'abord, vous nous retrouvez normalement le 16 octobre. Donc, vous retrouvez le Monde Meilleur du Travail sur Radio Libertaire 89.4 le lundi 16 octobre à 19h30. Mais vous aurez quand même avant ça, vous aurez le 10 octobre, normalement, l'Éduc 93 qui fait Radio Libertaria le mardi de 20h30 à 22h30. J'espère qu'ils vont le faire. Écoute, hein. Et puis, sinon, il y a le camarade, là, on est sûr qu'elle se fait l'émission, c'est Service Public, toujours sur Radio Libertaria, le quatrième mardi de 20h30 à 22h30, avec Bernard.
Oh, Bernard. Salut Bernard.
L'énergie. Ouais, on le salue, on l'embrasse. Et puis, on se reverra d'ici là, mais il y a quand même l'émission micro-ondes, encore une émission de la CNT, là, qui est trimestrielle, c'est dimanche 29 octobre, 15h30, 17h. Vous retrouvez les copains du... l'Union départementale du 93, des syndicats du 94, pardon, qui font une émission. 15h30, 17h, le 29 octobre, dimanche. Je sais pas quoi faire, vous écoutez. En général, elles sont bien faites, leurs émissions. Et justement, puisque j'ai terminé avec les syndicats du 94, je vais chausser mes lunettes. Ça sera bien mieux. Voilà, pour une rehausse des salaires, des retraites. Les retraites à 60 ans. La négociation de CCN et tout un tas d'autres revendications nécessaires face à l'inflation et la dégradation des conditions de travail. Un débat va se tenir le samedi 7 octobre à partir de 15h à la Bourse du Travail de Choisy-le-Roi, 27 boulevard des Alliés, donc dans le 94. Un débat sur quel syndicalisme. Voilà. Donc samedi 7 octobre, c'est samedi prochain, à partir de 15h, 27 boulevard des Alliés à la Bourse de Travail de Choisy-le-Roi. Voilà. Donc il y a une expo, des livres, une table de presse. Je vous encourage à y aller. Il est 20h59. On se dit au revoir. On se retrouve normalement le 16 octobre. Donc je n'ai pas de thème encore. Si je suis tout seul, il n'y aura pas d'émission.
Oui, voilà.
Vous avez tous
à un moment donné ou à un autre doit exister. On lance le générique de fin, on vous salue tous et toutes, et puis à bientôt, j'espère que l'émission vous a interpellé en tout cas.
Oui. Ciao. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Ciao.
L'idéal libertaire. Car moi, je veux
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Tu vois, c'est écrit à la une. On se dispute déjà la lune. Enfant de demain innocent.
Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi adoración. Quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, mi adoración. Lo que yo siento en mi corazón, y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, China, tú me has robado el corazón. Tú me has robado el corazón. China, tú me has robado el corazón.
China, cuando te veo, el corazón me hace currucutú.
China, tú me has robado el corazón.
China, tú eres la causa.
Tú me has robado el corazón.
Les infos du proton.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. On s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les jingles, mais c'est pas grave. Ce soir, nous avons la Sainte Trinité. Avec, dans le rôle du père, bah oui, c'est toi le plus âgé, Alain Leduc. Alain Leduc, dangereux athée. Et qui a commis tout un tas de choses et de livres sur Octave Mirbeau. Et nous avons le Fils, ou le Saint-Esprit. Oui, côté H, ça va être le Saint-Esprit. Yannick Lemarié. Et Yannick Lemarié, c'est ça ?
Lemarié.
Yannick Lemarié, qui a collaboré au livre qui fait l'objet de l'émission du jour, c'est-à-dire les cahiers Octave Mirbeau, la chose étant faite sous la direction de Samuel Lair et la société Octave Mirbeau, c'est paru, mine de rien, dans les classiques Garnier. Et bien entendu, comme il nous faut quand même le fils, le petit jeune, nous avons à la technique Nicolas. Et Nicolas qui interviendra
Bonsoir.
Peut-être et qui a eu la gentillesse d'apporter un moment, si tu pouvais me le remettre sur la table, un livre d'Octave Mirbeau qui s'appelle un truc sur le regard. Et tant qu'à citer des livres, nous avons donc au moins deux livres à citer. Le livre de Yannick Lemarié sur Arsène Crier, et le titre est triste, journaliste anarchiste et boulangiste. Et, oui, un anarchiste qui est devenu boulangiste, bon, personne n'est parfait, malheureusement. Et d'Alain Leduc, nous avons Octave Mirbeau avec un sous-titre charmant, le gentleman vitrioleur. Seulement, voilà, Octave Mirbeau est un nom plutôt connu, mais il n'est pas dit du tout qu'il n'y ait pas ce soir des auditrices et des auditeurs qui disent « Ouais, mais effectivement, il y a Octave Mirbeau, c'est qui ?» Alors, Alain, comme tu as commis donc le gentleman vitrioleur 1848-1917, il a des belles dates de naissance et de mort, Octave Mirbeau.
Ah oui. Le même jour.
Oui. Bon, me dites pas que c'était le 1er mai.
Ah non, malheureusement, il n'a pas tout fait, mais il est mort le jour de sa naissance.
Bon, d'accord, il est mort le jour de sa naissance. Alors, Alain, pourrais-tu expliquer au micro, dans le micro, vers le micro, qui que c'était?
Bon, on a une demi-heure, c'est ça?
Allez entendre un meurtre en direct.
Mirbeau, Octave, il est né en 48, c'est évident que... Très grande révolution, pas assez connue à mon sens aujourd'hui, révolution internationale. Et Mirbeau est né cette année symbolique. Bon, après, il meurt en 17. Mais pour moi, 17, c'est pas Pétain et tous ces généraux, etc. Les militaristes, c'est les mutins. D'ailleurs, on aurait pu presque, trop tard, j'y pense maintenant, mais passer cette magnifique chanson sur les mutins de 17.
Il est célèbre pour quoi, Octave Mirbeau ?
Il est célèbre pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un homme qui est journaliste, qui gagne sa vie comme journaliste, qui la gagne très très bien, qui a des commandes partout. Il fait partie, j'ai reconnu ça dans un autre livre que j'ai publié il y a quelques années sur Roger Vaillant, qui a beaucoup de choses en commun avec Mirbeau, mais qui arrive, quand il est chassé du surréalisme par André Breton, c'est une espèce de type un peu curieux, disons, un peu faisandé pour moi. Mais disons que Lazareff, qui a le même âge que lui, Lazareff, c'est un homme de presse très jeune, lui dit, écoute, Roger, tu vas essayer de faire...
Attends, c'est Octave Mirbeau.
Oui, non, je reviens. Une parenthèse juste. Tu vas faire quelques articles et il l'embauche le matin pour Paris Soir, Paris Midi, et puis il refait des articles l'après-midi. Et bien Mirbeau, c'est ça. Mirbeau, c'est quelqu'un qui, sur la même journée, tu vois, parenthèse, c'est pas inutile, va pouvoir faire plusieurs articles dans plusieurs titres différents, de tous bords. On le voit dans des titres qui ont même pas le même sens aujourd'hui, l'Aurore, le Figaro, etc. Ce sont des journaux qui sont plutôt marqués, grand public, mais plutôt marqués de ce qu'on appellerait la gauche, quoi, une gauche plus ou moins radicale. Bon, on va arriver... D'ailleurs, c'est un de ses grands amis, d'ailleurs, Clémenceau. Parce que c'est pas la vierge pure, hein, Mirbeau. C'est quelqu'un qui a des amis, qui cultive l'amitié, et qu'on va retrouver avec des goûts communs, par exemple, avec Clémenceau. Ils aiment les fleurs.
Ils aiment et donc, ils vont avoir comme ami commun
Monet.
Claude Monet. Alors là-dessus, je me permets une petite parenthèse. Je suis guide touristique de mon métier et donc je montre les toiles de Monet au moins 4 fois par semaine. Alors je savais que parmi les impressionnistes, il y avait des anards, mais que Claude Monet était copain avec Octave Mirbeau. Alors là, c'est délicieux. C'est délicieux pour une raison, c'est que les titres les plus célèbres d'Octave Mirbeau sont, les deux titres des romans les plus célèbres d'Octave Mirbeau sont,
bah, c'est Le Journal des Supplices, et qui est d'ailleurs publié quelques mois après la même année que Le Journal d'une femme de chambre.
Donc voilà, Le Journal d'une femme de chambre qui a eu plusieurs adaptations, n'est-ce pas?
J'en connais au moins 4.
Voilà.
Bah, vas-y, tiens, tu peux en parler,
Yannick,
un gros connaisseur au cinéma.
Oui, alors il y a eu une adaptation en muet, un film muet. Par un soviétique, et ensuite il y a eu 3 adaptations importantes. La première, c'était l'adaptation de Renoir, Jean Renoir, qui a fait un très très beau film, je trouve. Alors tout le monde n'apprécie pas, mais moi, je considère que c'est quand même une belle œuvre, une relecture de Mirbeau quand même, Journal des femmes de chambre. Ça se passe aux États-Unis. Deuxième version, c'est par Buñuel, et puis
avec
la troisième
dans c'est... le rôle titre. Où je me trompe.
Non.
Jeanne Moreau.
N'importe quoi. Non. Donc voilà. Et puis,
Nicolas, défense de rigoler.
Et puis troisième adaptation qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça, par Benoît Jacquot, avec Léa Seydoux. Donc à chaque fois, on a quand même 3 grands réalisateurs. La version russe, soviétique, n'est pas connue, il n'y a pas de traces, mais en tout cas, ces 3 versions-là sont faites par des grands réalisateurs, ce qui montre bien que l'œuvre est puissante, parce qu'elle permet à la fois à des réalisateurs de s'emparer d'un roman, et en même temps d'en faire une lecture personnelle. Et à chaque fois, ce sont de grandes actrices également. Donc on a vraiment, de ce point de vue-là, effectivement la preuve d'un roman et d'une œuvre magistrale.
Est-ce que tu pourrais rapidement rappeler ce qui se passe dans Le Journal d'une femme de chambre?
Ah, alors c'est une bretonne qui monte à Paris, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là.
Pas Bécassine, mais Célestine, n'est-ce pas?
Voilà, Célestine qui monte à Paris et qui va se retrouver embauchée par un monsieur Lanlaire. Le couple monsieur et madame Lanlaire, voilà. Et elle va petit à petit tenir un journal. Et on la voit à la fois mener des activités chez monsieur et madame Lanlaire, donc... petit à petit se rapprocher d'un voisin, essayer de le séduire, et puis en même temps, elle raconte ses souvenirs, et donc on a des retours en arrière qui permettent de voir ce qui se passait dans la société de la Belle Époque, et donc voir surtout les dessous de la Belle Époque, hein. C'est-à-dire que elle montre effectivement ce qui se passe dans les chambres, elle montre les comportements les plus détestables de la bourgeoisie.
C'est un peu, ça a peut-être été inspiré à Mirbeau, j'en sais rien évidemment, par la célèbre phrase de je ne sais plus trop qui d'ailleurs, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre.
Ah, alors je ne sais pas s'il est inspiré par cela, mais en tout cas effectivement, Célestine c'est à la fois une sociologue, c'est une philosophe, et puis c'est aussi en partie une manipulatrice, hein. C'est pas non plus une sainte.
Voilà, oui, parce que si j'ai bien compris, dans le roman il n'y a personne qui soit parfait, quoi.
Non,
tout le monde a des côtés absolument abominables. Et Mirbeau, si je ne m'abuse, a des mots assez durs sur les domestiques qui, finalement, essayent plutôt d'être côté du manche, ou je me trompe?
Oui, non, mais de toute façon, chez Mirbeau et dans ce roman-là, il y a des domestiques qui ne sont pas forcément tous sympathiques. Hein. Il y a notamment celui qui va séduire Célestine, qui n'est pas forcément un personnage très très sympathique. Qui tue d'ailleurs les oies avec une
qui tue les canards en fonçant des aiguilles dans le crâne.
Un homme charmant.
Et il y a un troisième roman aussi que moi je trouve peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs en tout cas de Mirbeau, c'est l'abbé Jules.
Bon, explique.
L'abbé Jules, c'est justement un curé qui est devenu curé un peu parce que son éducation l'a poussé à faire cela, et qui va, dans son comportement de curé, se comporter comme un anti-curé. C'est-à-dire qu'il va finir même à la fin par expliquer à l'enfant, au fils de sa sœur, qu'il faut se comporter en aimant surtout la nature. Et puis, il considère que tous les autres, ce sont des tas d'imbéciles. Voilà, c'est l'expression qui
est plus. Les imbéciles.
Les imbéciles.
Avec un Z.
Ah, voilà. Oh, merveilleux. Alors, incidemment, ça me, tout d'un coup, ça me fait venir un souvenir. J'imagine que beaucoup de gens qui écoutent Radio Libertaire se souviennent de quelqu'un de très bien, qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, Ronald Craig. Ronald Craig était un monsieur extrêmement drôle, qui est mort à l'âge de, je sais pas, il devait avoir 90 ans, 92 ou 93. Et 94, merci Nicolas. Et qui a, alors lui, c'est l'arc de sa vie est très bien, puisqu'il a commencé séminariste. Mmh. Et il nous a toujours dit que l'une des raisons pour lesquelles il n'était pas devenu prêtre, c'est que il discutait avec ses copains séminaristes. Donc on parle de quelqu'un de 94 ans, donc c'était il y a 70 ans. Il disait qu'il était écœuré parce que la moitié des séminaristes était là pour bouffer, parce que prêtre, c'est un, il y a la sécurité de l'emploi totale, il y a un grand respect, il y a l'accès aux petits garçons, aux petites filles, voire aux jeunes filles ou aux bonnes sœurs, enfin selon les goûts. Et donc voilà, c'est ce à quoi tout d'un coup m'a fait penser le mot oui, Abbé oui. Jules. J'ignorais totalement l'existence de ce roman.
Moi, je pense comme toi, je crois que c'est vraiment le plus gros bouquin intéressant. Tout est passionnant, mais l'Abbé Jules, c'est extraordinaire. J'ai relu récemment, là, cet été, les œuvres de l'Abbé Mélier. Et comme je m'occupe aussi du nom des athées, pour nous, c'est parce qu'on peut dire qu'on a une vénération pour l'abbé Mélier, mais c'est un grand seigneur. Quoi. Et dans l'abbé Jules, je n'ai pas la certitude que Mirbeau ait connu les publications de l'abbé Mélier, qui avait été défendu, trafiqué d'ailleurs par Voltaire, comme il faisait très bien. Mais on est à cet aspect-là. Par exemple, je me souviens, dans l'abbé Jules, il y a des moments impressionnants. Bon, il va s'occuper de l'éducation de son neveu, et puis à un moment, écoute, tu vas faire du latin, tu vas faire les mathématiques, je vais t'apprendre ça, puis maintenant, tu vas t'allonger dans l'herbe. Tu vas te reposer, tu vas buller, tu vas faire la sieste et point à la ligne, quoi. C'est-à-dire une espèce d'éducation, vraiment. Je pensais au livre d'enfant de Summerhill, tu vois.
Incidemment, à nouveau là-dessus, au XVIIIe siècle, à mon sens personnel, les deux plus grands écrivains athées français au XVIIIe siècle, c'est donc bien le curé Mélier, quand même, qui a écrit des choses absolument prodigieuses. Mais surtout, le mieux écrit, le plus drôle, c'est le christianisme dévoilé du baron d'Holbach. Là, il y a la qualité littéraire, la qualité de pensée, c'est d'une clarté extraordinaire. Je suis toujours très triste que ça ne soit pas plus intensément.
Il faut le rééditer, on peut faire un appel là-dessus. Mais le baron d'Holbach, c'est aussi lui qui est dans le coup des trois imposteurs.
Bien sûr, très probablement.
Qui est un bouquin extraordinaire, qui est, là aussi, je l'ai lu cet été pour s'approcher autour de l'athéisme, en encyclopédie. On a chez Voltaire, là, une fois de plus, la récupération des trois imposteurs. Les trois imposteurs, c'est le baron d'Holbach. Et associé.
Alors, souvenons-nous que les trois imposteurs sont donc les trois prophètes, Moïse... Mahomet.
Puis Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ, oui, bien sûr, fatalement. Faut pas en oublier. Alors, ça, c'était donc un peu sur le journal d'une femme de chambre. Yannick, est-ce que tu peux nous parler un peu du Jardin des Supplices?
Ah, Jardin des Supplices, c'est une œuvre assez étonnante. Assez étonnante. Alors, le récit, c'est relativement simple. C'est un jeune garçon qui veut, en fin de compte, réussir dans la politique, qui échoue, en fin de compte. Et puis, comme il faut quand même lui trouver une place, on l'envoie, en fin de compte, en mission, en Chine. C'est comme ça se fait encore beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas réussi à remporter l'élection, on lui donne une mission, donc il part en mission. Voilà. Et il va donc en Chine, et au cours de ce voyage, il rencontre une femme qui s'appelle Clara. Et avec Clara, il va sympathiser, puis tomber amoureux, et elle va lui faire découvrir, en fin de compte, le pénitencier, un pénitencier chinois. Et elle va le promener dans ce pénitencier avec toutes les tortures qui sont pratiquées dans ce pénitencier, avec des tableaux qui sont saisissants. Et à travers ce roman-là, en fin de compte, Mirbeau montre la cruauté de l'homme, parce qu'il y a comme ça chez Mirbeau, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il appelle lui l'instinct du meurtre. Chez l'homme, il y a l'instinct du meurtre.
La pulsion de l'homme.
Comment ?
La pulsion de meurtre.
Voilà, c'est ça.
Il y a beaucoup de rapports avec Freud aussi.
Voilà, oui.
Oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, pour l'émission, je me suis fait une petite relecture éclair du Jardin des Supplices. On voit évidemment que c'est l'époque de la découverte de la psychanalyse. C'est aussi l'époque dans l'histoire de l'art de l'obsession du mythe de Salomé, donc la grande femme castratrice, à la fois hyper séduisante, hyper sexualisée, mais qui la touche en meurt de plaisir, mais c'est évidemment un plaisir, alors là, profondément sadomasochiste. Il y a un passage également tout à fait bizarroïde dans le Jardin des Supplices, où un peu avant d'arriver au pénitencier, Clara l'emmène dans une espèce de marché, et l'unique type de chose qui est vendue dans le marché, ce sont des viandes pourries. Et là, évidemment, comme d'habitude dans ce roman, on se pose la question, mais là, Mirbeau, il est en train de nous montrer ses fantasmes, ou il est simplement en train de faire de la critique sociale ou de la critique contre l'humanité cruelle, dégoûtante, le cas échéant. Parmi les supplices qu'il décrit, fort heureusement, dans le Jardin des Supplices, il n'en décrit pas trop, parce que quand il en décrit, c'est assez dur. Il y en a un qui est à la fois bizarre et amusant, puis profondément anticlérical, donc celui-là, on peut le raconter. C'est le supplice de la cloche. Alors, comment se passe le supplice de la cloche? Eh bien, c'est qu'on ligote un monsieur, on le flanque en dessous d'une énorme cloche, et ben, tout simplement, on fouette deux pauvres malheureux qui tirent le bâton aussi fort qu'ils peuvent, et ce sont les vibrations de la cloche qui finissent par tuer le bonhomme en dessous, avant évidemment de l'avoir rendu complètement fou. Et là, bien entendu, le symbole de la cloche qui vous tue, c'est quand même assez, assez savoureux. Alors, en parlant de cloche, nous parlons donc de musique, et notre allié musical Nicolas va donc nous trouver quelque chose dont j'ignore encore ce que ça va être, mais ça ne peut être que savoureux.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec un pudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Car au gorille, tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille, patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup,
comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory,
c'était donc Georges Brassens, Garogory. Enchaînement parfait après avoir parlé de sadomasochisme.
Alors, juste pour continuer sur le sadomasochisme, je ne saurais trop recommander la lecture du célèbre livre « Dissection du sadomasochisme, virgule, approches anarchistes », où, je dois avouer, je ne parle pas d'Octave Mirbeau, parce que ça manquait justement... le problème donc du Jardin des Sublimes, c'est qu'on à chaque fois, on ne sait pas très bien s'il nous sort ses fantasmes ou si ces fantasmes sont purement symboliques. Je dois avouer que quand même, voyant le retour dans un certain nombre de textes de Mirbeau de choses ayant un rapport absolument direct avec le sadomasochisme, je dois avouer que je me demande s'il y avait un goût personnel. Mais d'un autre côté, il est très évident que, tout simplement, à nouveau à cette fin de 19e siècle, c'est un thème littéraire. De même que Freud découvre toutes les horreurs, parmi les horreurs, fatalement, celle qui est la plus facile à décrire, c'est celle qui semble être sadomasochiste. Alors, bien entendu, quand on a la description du Jardin des Supplices, c'est évidemment complètement loin de ce qu'est maintenant ce que j'appelle le sadomasochisme organisé, c'est-à-dire les associations, les organisations de gens qui se disent fort fièrement sadomasochistes, mais qui travaillent en sécurité. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple très simple, avant qu'une personne dite dominante accepte une personne dite soumise, la personne dite dominante doit lui poser une trentaine de questions sur son état de santé. Pour une raison très simple, on va ligoter un soumis. Bon, d'accord, très bien, il est ligoté. Ah, problème, il a une crise cardiaque. Si on savait pas qu'il était cardiaque ou épileptique ou un truc dans ce genre-là, on l'a ligoté de telle manière que ça prend une demi-heure de le déligoter et qu'à ce moment-là, quand les secours arrivent, il est déjà mort. Donc il y a tout un tas de questions à poser, d'ailleurs pas seulement physiologiques, mais éventuellement psychologiques. Il y a beaucoup de choses maintenant que dans cet univers du sadomasochisme, les pratiquants font pour que ça soit sane, safe and consensual, c'est-à-dire sain, en bonne santé, sûr et consensuel. Et donc, évidemment, souvent, on a l'idée que le sadomasochisme, par définition, c'est pas consensuel. Ben non. Au contraire, le, entre guillemets, bon sadomasochisme, il se pratique entre gens qui sont parfaitement d'accord pour le pratiquer. Et d'ailleurs, une chose un peu amusante, c'est que maintenant, de plus en plus, dans ces milieux-là, la plupart des gens, au lieu d'être absolument figés dans un rôle, la personne dominante ou la personne soumise, sont de plus en plus souvent des switches. Donc, des gens qui sont à un moment dominants, puis qui à un autre moment sont soumis. Et là-dessus, la chose qui me fait personnellement soupçonner, en revanche, que peut-être que Mirbeau n'avait pas tant que ça, n'était sans doute pas en tout cas un pratiquant sadomasochiste, qu'il avait peut-être un peu de fantasme, mais sans plus, c'est que très souvent dans le sadomasochisme, il y a une régression infantile. C'est-à-dire qu'en particulier, la position du masochiste, c'est de redevenir le petit enfant totalement à la merci, mais totalement également dépendant et heureux d'être dépendant des parents. Et ça, dans le peu que j'ai lu de Mirbeau, dans tous ces trucs apparemment, je ne retrouve absolument jamais ça. Alors, c'est pas une preuve dans un sens ou dans un autre, c'est plutôt un indice. Mais ce soir,
alors, pardon, peut-être vas-y. Quand même par rapport à ça, de toute façon, la sexualité chez Mirbeau, elle est assez obscure. Il y a quelque chose qui est trouble chez lui, parce que effectivement, il y a ces livres là qui montrent des rapports effectivement violents, et puis il a souvent effectivement des personnages qui ont une sexualité qui est contrainte. On parlait de l'abbé Jules, par exemple. Mm-hmm. L'abbé Jules a une malle dans laquelle il a enfermé des images porno. Hein, et lorsqu'il meurt, la malle est brûlée et les images ressortent d'une certaine façon. Donc, comme si.
Elles s'envolent.
Des
fragments de porno. Voilà.
Comme les âmes
qu'il a fait pendant quelques années et il a accumulé des trucs mal.
L'éducation l'a contraint. Mm-hmm. Et effectivement, sa sexualité a été troublée par une éducation qui était une éducation religieuse pour le coup. Et puis on suppose, notamment à travers un roman qui s'appelle Sébastien Roch, que Mirbeau a été Alors, agressé sexuellement, sans doute, durant son enfance par un curé, alors qu'il était...
un père jésuite.
Par un père jésuite, oui, alors qu'il était au collège. Donc, voilà, tout ça fait qu'il a quelque chose chez lui, effectivement, qui a rendu la sexualité difficile, obscure, inquiétante, parfois.
Et à l'époque, voilà. En plus, de toute façon, c'était déjà obscur, difficile et inquiétant.
Oui.
Et à l'époque, on a rajouté une forte dose.
Il y a l'éducation, il y a tout ça. Enfin, voilà.
Alors, ce soir, donc, nous parlons plus particulièrement de cet épais volume, puisqu'il y a, excusez-moi, je vais vérifier, il y a tranquillement, poum poum, oh la vache, quasiment 500 pages, qui est donc le numéro 29 des cahiers Octave Mirbeau, publié par la société Octave Mirbeau chez les Classiques Garnier. Alors, c'est un volume extrêmement intéressant, très, très hétéroclite, puisque c'est la règle du jeu avec ce genre de cahier dédié à un écrivain. C'est l'état de la recherche à un moment donné, donc ça peut aller dans des tas de directions différentes. Alors, il y a quand même quelque chose, il y a deux textes tout à fait essentiels sur une question fort importante pour nous à Radio Libertaire. Mirbeau était-il anarchiste ? Alors, Yannick, que peut-on nous dire sur le sujet ?
Alors, il était anarchiste. Il a été anarchiste. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu, il l'a dit, il l'a affirmé. La seule chose, d'une certaine façon, qui reste encore une réflexion pendante, c'est est-ce qu'il a été, dès le début, quasiment dès qu'il est décédé, à son adolescence, anarchiste. Or, certains considèrent qu'il a toujours été anarchiste et que pendant un certain temps, il était obligé de se cacher et donc travailler dans des journaux réactionnaires pour gagner sa vie tout en étant anarchiste. Moi, je serais moins convaincu par cette appréciation-là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été effectivement, qui était bourgeois, qui a été d'une famille bourgeoise, qui a eu une éducation bourgeoise, qui a travaillé dans des journaux qui étaient des journaux bourgeois. Hein. Il a travaillé effectivement dans un journal monarchiste. Il a créé une revue qui s'appelait Les Grimaces, qui était une revue qui était très 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 violente et très violemment antisémite. Donc voilà. Et il s'est arraché de cela pour effectivement se tourner vers quelque chose qui était plus à gauche, et puis petit à petit vers l'anarchisme. Moi, je pense que c'est plus ça qui correspond à Mirbeau.
Ouais, tu as raison. Moi, je vois ça comme une probité. Je l'appelle la probité de l'anarchisme. C'est-à-dire qu'il va se forger anarchiste. Parce qu'il va comprendre un moment, il y a un tournant, si tu n'es pas d'accord sur la date, il y a un tournant qui, pour moi, me paraît fondamental. C'est 1885. Il faut voir le contexte de l'anarchie à l'époque. Il faut voir les grands attentats qui vont avoir lieu et les grands procès. Par exemple, Mirbeau, il l'a assumé, il écrit un texte sur Avachol en disant, moi, personnellement, Avachol, j'aurais pas fait ça. Mais il dit, mais qui est-ce qui crée un Avachol? C'est la société qui crée un Avachol. Et ce texte-là est un texte absolument magnifique. Mirbeau, il devient anarchiste en lisant les grands Russes, Dostoïevski et Tolstoï. Surtout Tolstoï. Et c'est cet anarchisme-là auquel il se réfère. Il a été, et moi, jamais dans mon autobiographie, dans la biographie que j'ai consacrée à Mirbeau, je n'ai jamais caché des dérives. Au début, il gagne sa plume, il gagne sa vie par la plume, il est bonapartiste, il est réactionnaire, il est monarchiste, il finit par sortir comme rédacteur en chef, ce qui n'est pas rien, dans les revues Les Grimaces. Des textes antisémites avec les juifs au nez crochu, etc. Et ça, il n'y a pas de rédemption chrétienne chez Mirbeau. Mais des années après, il sera le premier adjoint et le premier bras droit de Zola. Et c'est lui qui va payer de sa poche le procès de Rennes de Zola après le J'accuse. Zola n'a pas d'argent, il a été exilé, etc., etc. Donc il est en permanence et il fait y compris le coup de poing. C'est un aspect qu'on connaît mal. Il va à Toulouse dans un meeting, il prend sa canne et il casse la gueule à des opposants anti-Dreyfusard, quoi. Et cet anarchiste-là, il vient de là, mais il l'est aussi par ses faits. Enfin, je parle un peu avec passion de tout ça, mais par exemple, c'est un ami de Jean Grave. Et quand Jean Grave, il va en tôle, eh ben, qu'est-ce qui paye? Qu'est-ce qui envoie des fruits? Qu'est-ce qui envoie des bouquins? C'est lui. Et ainsi de suite.
Et d'ailleurs, il veut aller voir Jean Grave en prison et on lui refuse d'y aller. C'est-à-dire que la police refuse, la justice refuse qu'il puisse aller voir Jean Grave en prison.
Parce que possibilité de complot, de
conspiration. Alors ça, c'est les années. Enfin, on est effectivement, c'est comme tu le disais, hein, c'est à partir des années 90, fin des années 80, début des années 90, où il est vraiment là, il s'affirme anarchiste et puis il côtoie les anarchistes, hein, il côtoie Faure, il côtoie Jean Grave, il côtoie un grand nombre comme ça, Pizarro, le peintre Pizarro justement.
Pizarro, également. Il écrit sur lui comme en esthétique. Mm-hmm. En même temps, il est ami de Pizarro, anarchiste.
Mm-hmm. Voilà. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il est parfaitement anarchiste. Il l'assume. Il le dit d'ailleurs. Dans une interview à Picard, un dénommé Picard en 1894, il le dit, je suis anarchiste. Et il explique pourquoi. Il explique pourquoi il est anarchiste. C'est-à-dire qu'il est contre le capitalisme, il est contre évidemment, pas de Dieu, pas de maître.
Il est de toutes les révolutions, liberté, il est de soutien à toute révolution, la révolution russe de 1905, les révolutions arméniennes, etc., etc., le colonialisme, c'est impressionnant, l'action de Mirabeau.
Je dois dire une chose, j'ai une petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais à force d'observer, de voir les compagnes et les compagnons anarchistes que je connais, que vous connaissez aussi, vous serez peut-être d'accord avec moi, je trouve qu'il y a deux types de ce point de vue-là, du point de vue biographique, il y a deux types d'anarchistes. Il y a les gens qui sont anarchistes très très tôt. Alors très souvent, ça démarre à l'adolescence, alors c'est un problème de famille, c'est autre chose, mais c'est des gens souvent rebelles, d'une personnalité rebelle, et ça se déclare très très tôt, et dès qu'ils arrivent à entrer en contact intellectuellement avec la théorie anarchiste, ils comprennent que, paf, ils ou elles comprennent que c'est leur truc. Et puis, il y a un grand nombre, et ça je m'en suis rendu compte, il y a un grand nombre de gens, prenons par exemple Ronald Craig, qui démarrent éventuellement totalement ailleurs, voir, comme Ronald Craig dans la religion, comme Mirabeau à droite ou à l'extrême droite, et puis, qui ont une grande qualité, ils sont curieux, ils sont ouverts d'esprit, ils se renseignent. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que ce qu'ils savent les contraint à devenir anarchiste. En ce qui me concerne, moi, ça s'est passé un petit peu, ça s'est même passé plus tôt que Mirabeau, et fort heureusement, j'ai jamais été d'extrême droite, fort heureusement, mais je me souviens très bien que et moi, je suis devenu anarchiste parce que j'ai appris, parce que j'ai lu, parce que j'ai vu. Bon, Christiania, ça m'a également beaucoup aidé. J'ai vu un anarchisme qui fonctionnait. Mais en lisant de l'ethnologie, en lisant de la sociologie, en lisant de l'histoire, au bout d'un moment, on se rend compte que l'extrême droite ment et est horrible, que la droite ment est un petit peu moins horrible, mais guère moins, que la gauche officielle est composée d'hypocrites. Enfin, on fait l'élimination. En ce qui concerne ma génération, l'Union soviétique, c'était une catastrophe, c'était un mensonge. Qu'est-ce qui reste ? On voit ces gens-là, et puis on se dit, tiens, les anarchistes. Ah bon ? Puis on en sait déjà un petit peu. On creuse un petit peu, puis on se dit, mais c'est ça qui colle. Mmh. Et là-dessus, je présume pour ma part, sans le connaître, ma connaissance de Mirabeau est plus que superficielle, mais je présume que c'est un peu ça qui se passe. Ouais. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui n'hésite pas à apprendre et à se changer la tête, qui tout d'un coup découvre que il y a des horreurs.
Avec une... moi, je trouve qu'aussi, en tout cas pour Mirabeau, il faut quand même aussi une force morale, parce que ça signifie que là, il est contre sa famille, il est contre les gens qu'il fréquentait, et il doit aussi sortir de son milieu. Et il va finir, parce qu'il le fait aussi, comme tu le disais, hein, dans les années 90, c'est-à-dire au moment où il y a les attentats, il le fait au moment où il y a les répressions, où il y a les lois scélérates qui sont mises en place, et c'est là qu'il dit, moi je suis anarchiste. Là, il faut quand même un courage, alors que c'était quelqu'un qui était dans la société, bien installé, reconnu par tout le monde, et il prend des risques à ce moment-là, des risques qui sont importants.
Et ça, là-dessus, je trouve ça particulièrement honorable, parce que il y a bien entendu beaucoup d'anarchistes, alors en partie dans des pays comme, mettons, l'Espagne, le Chiapas, etc., où ce sont des gens qui ont été abominablement maltraités par la société, mais les gens qui sont bien intégrés et qui ont du succès même dans ce qu'ils entreprennent, c'est-à-dire pas seulement des gens qui viennent d'une, entre guillemets, bonne famille, mais des gens qui ont effectivement un succès professionnel, une reconnaissance professionnelle, tout d'un coup, de virer de bord comme ça, c'est beaucoup plus rare. Voilà, c'était le grand geste pour la pause musicale qui va arriver, c'est pro. Mmh.
Quelle sombre la mer et le ciel bleu clair, bleu turquoise et l'iris et la pupille noire, rouge la zébrure, pourpre la lanière, sanguine la cicatrice et bleu pastel les veines. Turn around, turn loud, turn around. Et j'ai ri, muse et modèle m'en font voir de toutes les couleurs, de la nuit noire à l'aube blême. Sur tous les tons de l'arc-en-ciel. Dorer la lune vers le palmier, cerné de coule, le blanc de l'œil. J'ai la bas bleue et translucide les dents, noire de jet, la chevelure, satin cuivré, la peau fauve, les tentures et la paupière. En pose alanguie leur nudité intemporelle. Sur les draps froissés de mon lit. Les roses sans sécher les épines, sanguine l'orange et le vase bleu de Chine. Turn dead and round,
Jacques Higelin, ça s'appelle Égérie, Muses et Modèles. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est Jean-Manuel, et ce sont les Muses s'amusent.
Parle ce soir, entre autres choses, du livre publié sous la direction de Samuel Lair par la société Octave Mirbeau. Ça s'appelle Les Cahiers Octave Mirbeau, c'est le numéro 29 des Cahiers Octave Mirbeau. C'est paru au Classique Garnier. Et Alain, pendant la pause, nous rappelait que Octave Mirbeau a très violemment et très bravement combattu les multiples brutalités policio-judiciaires de son époque. On en aurait bien besoin maintenant, puisque comme tu le dis maintenant, après tout, la police de Macron, elle est nucléée, elle matraque, enfin, tout le monde est au courant de la dérive à la fois répressive et extrême-droitiste de la police de Macron, de la police et de Macron lui-même. Mais peux-tu nous rappeler un petit peu le texte dont tu parlais, la perquisition par Mirbeau?
C'est magnifique, il y a des petits matins, on tape à la porte, et puis ce sont des Pandores. Enfin, pour les jeunes auditeurs, ce sont des flics qui viennent là, chapeau melon, inspecteur, et ils viennent chercher chez un intrus, qui est sans doute une projection de l'auteur, des choses dangereuses. Alors, ils voient des livres partout. Oh mon Dieu, je pense que si jamais les Pandores arrivent chez moi, ou chez toi, ou chez... on va être foutu d'avance. Et alors, et le flic, il dit, mais il y a des livres partout. Alors, le brave gars qui est perquisitionné, il a un petit chemin. Il dit, mais oui, il y a des livres d'histoire, de sociologie. Oh, on embarque. Et alors, il finit par tout embarquer. Il dit, géographie, c'est dans les hiéroglyphes, c'est dangereux. Puis l'autre lui dit, mais vous savez qu'il y a des livres à Bibliothèque nationale. Notez, on va à Bibliothèque nationale, on va embarquer. Voilà, c'est un gars extraordinaire. Quoi. Et il continue à embarquer. Puis à un moment, il sur une cheminée, il voit des bustes. Il faut des bustes en bronze, c'était la grande époque. Puis il y a des bustes, parce que les bustes, c'est creux.
Ah, les bustes,
et dans
c'est
la tête,
creux.
on met de la dynamite, ou on met des produits incendiaires et tout. On la marque les bustes. Quoi. Et c'est extraordinaire, l'humour de ce texte qui est magnifique.
Je persiste à penser que l'une des armes révolutionnaires les plus puissantes, c'est l'humour.
Ah oui.
Et que un truc qui m'attriste en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez d'humour contre Macron. Mmh. Alors évidemment, il est un peu moins ridicule, hélas, que tout un tas d'autres affreux. Mais c'est dommage parce que c'est ça qui scie vraiment les piédestals. Je suis persuadé que 50% de la chute de l'Union soviétique, ça a été dû au fait que les communistes eux-mêmes, les koguébistes eux-mêmes, racontaient les meilleures histoires possibles contre l'Union soviétique et contre le léninisme. Et je pense que ça serait bien utile. Alors, en revanche, un texte dont je n'ai pas l'impression qu'il ait été particulièrement drôle, mais qu'il était en revanche tout à fait essentiel dans ce numéro 29 des Cahiers Octave Mirbeau, c'est un texte d'une dame appelée Marie-Pierre Tardif, si je ne m'abuse, et qui s'appelle « Une représentation inversée des rapports de genre ». Alors, en quoi est-ce qu'elle est inversée ?
Alors là, elle s'interroge surtout sur la situation des hommes et des femmes, et surtout la perception qu'on peut avoir des gens. Voilà. Et notamment chez Mirbeau. Chez Mirbeau, qui effectivement, à la fois est fasciné par les femmes, et en même temps a du mal à sortir des schémas de son époque. C'est-à-dire que il fait souvent... Alors, il dit déjà que la femme est autre. Il considère que c'est vraiment une créature un peu mystérieuse qu'il a du mal à appréhender. Alors, d'ailleurs... Parfois il dit elle est aussi intelligente que nous, elle est comme nous, et puis parfois il dit bah non, elle est complètement différente, elle est incompréhensible, et il est un peu dans cette situation conflictuelle où à la fois il est admiratif, à la fois il a peur et il a du mal à reconnaître effectivement la femme comme l'égale de l'homme.
Alors, je pense qu'effectivement c'est vraiment le typique de la situation occidentale à ce moment-là, où, alors ma théorie personnelle là-dessus est la suivante. À la fin du 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, l'athéisme explose. Et tout d'un coup, il y a vraiment, c'est très très clair, l'athéisme devient quelque chose d'important, en particulier en France, mais disons dans les pays occidentaux très éduqués, de très haut niveau de culture, l'athéisme devient très fort. À partir du moment où l'athéisme devient très fort, c'est aussi parce que il y a le double mouvement, l'athéisme monte, mais le christianisme s'effondre. Le christianisme, évidemment, imposait une vision de la nature, entre guillemets, une essentialisation des genres, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, et cette vision s'effondre. Et là, il y a une double panique. La première panique, c'est évidemment que si jamais le rôle classique la relation patriarcale entre les hommes et les femmes, si ça disparaît, que vont faire les femmes? Parce que les hommes se rendent compte que quand même, ils les ont pas très très bien traités. Et puis, il y a tout le côté psychanalytique de l'angoisse, de la castration, etc. Et donc, ça explique une grande partie de cette montée du mythe de Salomé, de l'obsession de la femme castratrice, de la femme à la fois totalement réduite à sa nature sexuelle et porteuse de maladies, de morts, etc. Et puis, alors, je sais pas si c'est en dessous, au-dessus ou à côté. Mais rappelez-vous de cette inquiétude de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et là, c'est vraiment quelque chose qui arrive donc à la fin du XIXe siècle. On croit que si la religion s'écroule, il n'y aura plus aucune limite morale, ce contre quoi évidemment s'élèvent les anarchistes. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui obsède tous les bourgeois qui sont morts de peur que toutes ces masses qu'ils tenaient en laisse, les pauvres d'une part, les femmes de l'autre, évidemment les femmes pauvres encore mieux, que ces masses-là vont se venger. Et je pense qu'une grande partie de ces fantasmes délirants, cette manière qu'a Mirbeau de présenter, alors à nouveau dans le Jardin des Supplices, Clara, qui est à la fois en même temps sadique et masochiste, mais alors d'un sadisme et d'un masochisme absolument effréné, il suffit qu'elle avance dans une foule d'hommes et elle a des orgasmes, rien qu'en touchant les Chinois sales et évidemment puants, bien entendu. Et ça, je crois que c'est un rapport avec cette profonde situation qui change juste à ce moment-là. Donc, en tout cas, il y a ce texte absolument très important sur la représentation des rapports de genre dans l'œuvre entière de Mirbeau.
Avec chez Mirbeau aussi une difficulté chez lui à concilier effectivement son anarchisme, hein, où justement ça devrait l'amener à considérer la femme comme une compagne et donc l'égale de l'homme, et justement cette espèce de misogynie qui est en lui et qui vient aussi de son éducation. Donc là, il a du mal à sortir de cela, et il essaye de temps en temps de concilier les deux, mais on voit bien pour lui c'est une grosse difficulté.
Moi je dirais qu'il y a un autre, c'est aussi à cette époque-là que la Première Guerre mondiale évidemment va poser le problème de manière brutale. Ça sera également la difficulté pour pas mal d'anarchistes à résoudre le problème patriotisme ou pas patriotisme. Il me semble que c'est un peu la même chose. Il y a cet univers extérieur qui est extrêmement puissant. Alors, patriarcat d'un côté, patriotisme de l'autre. Et puis, de s'affirmer libertaire et égalitaire, ce qui devrait dire, désolé, les femmes sont les égales des hommes. Et puis, sortir du patriotisme, désolé, les Allemands sont tout aussi bien que les Français. Dans les deux cas, ça va poser des problèmes sérieux à beaucoup de monde.
C'est très important ce que tu dis là-dessus, parce que moi qui ai été éduqué par un grand-père, quand j'avais 4-5 ans, je vais chez lui, qui était un homme magnifique. Mais en même temps, il y avait quelque chose de viscéral, c'était les Boches. Moi, j'ai appris que les Allemands existaient, j'avais 7 ans. Avant, j'entendais parler des Boches. Mon grand-père était ch'ti, il avait été deux fois déporté en 14 et ensuite en 40. Et il n'arrivait pas à comprendre. Un jour, au lycée, on avait les amitiés au-dessus des tombes, c'était beau comme expression. J'ai ramené une jeune Allemande avec laquelle je fricotais, il m'a dit « Alain, pas ça !» J'ai dit « Bon, Pépé, d'accord, mais excuse-moi, pour une fois, je vais te dire « Non, je préfère quand même la petite Allemande. » Mais tu vas me dire un truc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu parles depuis tout à l'heure, et c'est passionnant, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Vanina S. », qui traite beaucoup du... qui a la misardine en poche, qui traite du sadomasochisme. Mais il faut savoir, ça, là tu vas être ébloui par les quelques il connaît Mirbeau, sa sœur Mazoc.
C'est sûr.
Ils s'écrivent.
Ah, ça c'est encore mieux. Ah, ça je savais pas.
Ah, mais ils s'écrivent. Donc on a 3-4 lettres, hein, je crois.
Ah, oui, mais très peu quand même. Oui.
Oh, très peu, mais on a quelques lettres.
Ah,
donc quand il vient à Paris, il se rencontre. Wow. Donc, c'est extraordinaire d'imaginer ça, quoi. Et son rapport au sadomasochisme, il est quand même là incarné par le contact direct avec
Sacha Mazor. Alors, il faut que je rappelle à ce moment-là qui est Sacha Mazor. Tout simplement, Sacha Mazoch, c'est le gars dont le nom, évidemment, a donné naissance à l'expression masochisme. Alors, c'est un écrivain, et soyons francs, c'est un écrivain chiant. Il écrit son grand chef-d'œuvre, s'appelle La Vénus à la fourrure, voilà, il a un fantasme, c'est une femme, alors qui s'appelle effectivement dans La Vénus à la fourrure, qui s'appelle Vanda, qui est habillée avec des fourrures très souvent. Et dans La Vénus à la fourrure, c'est un jeune officier qui devient red-dingue amoureux de cette dame. Et évidemment, elle est très méchante et très cruelle. Et il passe un contrat. Alors à nouveau, dans le sadomasochisme organisé, le contrat est même quelque chose de ritualisé, d'érotique, de très puissant. Et il passe un contrat, et c'est un contrat de soumission totale à la dame. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un écrivain chiant? C'est que Sacha Mazoch, il a écrit à peu près 20 romans, dont le canevas est toujours le même. Jeune homme, viril, plein de noblesse de cœur et plein d'ambition et avec une brillante carrière devant lui, mais qui rencontre sur son chemin la méchante, la cruelle, la froide, la brutale. Et c'est le gars, c'est comme Sade, il est totalement prisonnier de son univers fantasmatique, il a un mal de chien.
L'obsession du pognon et du pouvoir. Hein.
Ah ben, je veux. À nouveau, les liens entre l'armée d'une part, l'Église, d'autre part, et la religion de l'argent, et le sadomasochisme, sont très très évidents. Alors, je ne savais pas du tout qu'il s'était écrit. Alors là, je dois dire que ça pousse un petit peu la question, est-ce que Mirbeau avait un certain goût pour le sadomasochisme dans un sens ou dans un autre, ou dans les deux à la fois? À nouveau, ça ne voudrait pas dire nécessairement qu'il l'ait pratiqué, mais comme on le sait, en ces matières, on peut avoir un goût puissant et ne jamais avoir osé pratiquer dans un sens ou dans un autre. Mais je vous remercie de cet éclairage parce que...
Mais attends, il y a un nouveau scoop qui va t'arriver dans quelques secondes.
Alors vas-y.
Mais d'abord...
Non, je voulais dire quand même, ça pose aussi la question plus générale du corps hein, dans cette société-là.
Ah oui,
et d'ailleurs, il y a un livre, alors on n'en a pas parlé du tout, mais comme je le disais en venant ici, un livre qui a été édité chez Libertalia, qui s'appelle « Hardy Compagnon ». De Clara Skilnecht. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé le terme.
Excuse-moi,
mais
je peux
regarder. C'est masculinité.
Ah oui. C'est marrant. Schildknecht, ça veut dire le garçon au bouclier.
Ah ben, voilà.
Vu le titre, c'est pas mal. Vas-y, continue.
Masculinité et virilité anarchiste à la Belle Époque. Voilà. Donc, comment, justement, le corps peut devenir aussi l'expression d'une virilité anarchiste. C'est-à-dire que, et notamment parce qu'on défendait le corps des ouvriers. Et le corps des ouvriers est un corps puissant, et on le mettait en avant. Et ce qui expliquait aussi qu'en mettant en avant cette virilité et cette puissance corporelle, eh bien, la femme était considérée comme une créature faible dans certains cas. Vous voyez, il y a tout ça qui... Voilà. Et donc, il y a ce petit bouquin-là qui est vraiment passionnant.
Et il suffit de voir les statues, le réalisme socialiste.
Oui,
et les ouvriers dans la propagande maoïste. Hein, les ouvriers chinois avec des avant-bras plus gros que mes cuisses. c'est pas merveilleux, sa vie.
Et sportif aussi. Le corps sportif aussi était.
Ah bah là, on va en baver des rots de chapeau.
Oui.
C'est l'émission là-dessus. Moi, je suis anti-Jeux Olympiques. Mais alors,
Une petite seconde. Avant que j'oublie. Je vais me démerder pour faire publier ça un peu partout. Il m'est venu une idée extrêmement simple à propos du parcours de la flemme. Non, pas le parcours de la flamme, le parcours de la flemme. Enfin bon, bref, sur le parcours de la flamme, je propose que, au moins une fois, voire éventuellement plein, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'amis se disent juste entre eux, surtout pas par email, pas par téléphone portable, en parfaite, juste oralement, se mettent d'accord pour être au premier rang d'un des coins du parcours de la flamme. Que deux ou trois de leurs amis soient de l'autre côté de la rue, en train de filmer et que ce qui filme soit en temps réel immédiatement diffusé sur Internet de façon à ce qu'on ne puisse pas couper l'image. Et l'idée est très simple. C'est que ces 20 personnes qui vont être au premier rang, dès que le porteur ou la porteuse de la flamme arrive, ils se retournent, ils basculotent, ils leur montrent le cul. Donc, je lance l'idée, je la relancerai plusieurs fois. C'est quelque chose que n'importe quel groupe d'amis peut faire. Impossible de réprimer ça si on fait ça sans passer par l'email, sans passer par un truc totalement entre copains et entre copines. Et à nouveau, en revanche, l'idée, c'est deux ou trois autres personnes de l'autre côté de la rue, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, si les flics arrivent aussitôt, désolé, c'est déjà, déjà sur Internet. Parce que je crois que nous sommes tous les quatre d'accord. Les jojo, c'est vraiment pas aussi rigolo que le jaja. Les jojo, c'est à gerber.
J'ai relu récemment un bouquin extraordinaire sur la Bible et le Jésus-Christ comique. De André Le Rouleau, pour lequel nous, à la, je suis membre de la direction parisienne de la Libre Pensée, puis Union des athées, tout le monde aura compris. Mais Le Rouleau, on a une vénération pour ce monsieur qui a d'ailleurs fricoté avec les anarchistes dans les années 10, qui a été un grand directeur, qui a créé l'Idée Libre, qui est un bouquin magnifique. Et Le Rouleau, il a beaucoup d'humour, il a écrit une vie comique de Jésus-Christ, dans laquelle il raconte que quand Moïse, finalement, il est allé voir Dieu, entre guillemets, le Dieu avec un D majuscule, sur le mont Sinaï, Dieu ne l'a pas regardé. Donc, il n'a pas vu son visage, mais il lui a montré ses fesses. Et le Rouleau a conclu, il lui a montré son cul. Quoi. Bon, donc, ce n'était pas inintéressant. Il y a, sur, je ne voudrais pas oublier de quand même citer dans cette émission quelque chose que je trouve fascinant.
C'est le deuxième scoop ?
Ouais, c'est celui-là.
Ah, vas-y, je t'écoute.
Enfin, celui-là, mais bon, pas vraiment un scoop, on l'a publié, je ne suis pas le seul à l'avoir publié. Mais un des grands supplices, à vrai, la cloche, avec le christianisme derrière, c'est les rats.
Le supplice du rat.
Mmh. Le rat. Alors, on met un pot. Pot de fleurs, quoi. On met un rat dedans, on le fixe sur le postérieur d'un condamné, puis le rat, bah, il a peur, il essaie de dégager, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il va rentrer dans l'organe, il va rentrer dans le ventre du condamné, c'est un supplice terrifiant. Mais derrière ça, il y a un type qui va devenir l'homme au rat chez Freud, dont on reconnaît, j'ai publié tous les documents là-dessus, qu'il a connu les textes de Mirbeau. Et il a été fasciné par les textes de Mirbeau, et effrayé. Et cet homme au rat de Freud, qui a la fascination de ce rat qui lui bouffe l'intestin et de la sodomie, etc., avec tout ce que ça implique, ça vient directement de Mirbeau. Et Mirbeau était proche des idées freudiennes.
Bien sûr.
Et la modernité, enfin la puissance, modernité c'est un peu compliqué comme mot, mais la puissance d'imagination et de...
Ah oui, non, c'est évident, là, à nouveau, d'avoir relu à cause de vous là, le Jardin des Supplices, effectivement, en le relisant, je me disais, mais c'est dingue. C'est Freud, juste... D'ailleurs, c'est publié quand, le Jardin des Supplices ?
1900.
Mmh. Ah oui, donc c'est juste avant que Freud commence à être connu en France, quoi. Et encore, même pas.
Comment ? Il est déjà venu à voir, enfin suivre les cours en psychiatrie. Donc, il a déjà été assistant. Il a déjà publié des textes.
En tout cas, c'est clair et net.
Tu me diras, mais je pense pas que Mirbeau était germaniste. Il aimait beaucoup l'Allemagne, mais il n'était pas germaniste, je crois pas.
Hein. Je pense pas qu'en 1900, Freud était déjà traduit en français. Je crois pas.
Il était connu par les spécialistes.
Voilà. Donc, en tout cas, c'est une chose claire, c'est que donc quand on lit le Jardin des Supplices, le côté psychanalytique, alors des supplices de l'université, enfin, il suffit d'avoir 3 mois de psychanalyse pour comprendre tout ce qui est en jeu. Et puis, on va quasiment maintenant terminer. Je voudrais quand même citer. Tout d'abord, Nicolas nous a apporté un livre qui est une anthologie d'articles d'Octave Mirbeau sur les différents peintres, qui a été intitulé « La révolution du regard ». Moi, personnellement, toute cette histoire des impressionnistes, etc., je ne l'appelle pas une révolution du regard, je l'appellerais plutôt une révolution, au contraire, de l'image. C'est-à-dire, c'est plus tellement le regard qu'on pose sur le monde qui va changer, c'est qu'on comprend que l'image telle qu'elle était faite par le monde occidental jusqu'aux impressionnistes, qui était très étroite, c'est-à-dire qu'elle prétendait être une représentation de la réalité, fût-ce une réalité imaginée ou postulée comme l'histoire, la mythologie, la religion ou l'allégorie, et que tout d'un coup, on redécouvre qu'en fait, une image, c'est d'abord une image, et que ce qu'elle représente est beaucoup moins important que ce qu'elle présente. C'est-à-dire que sa nature purement visuelle, ce qu'elle est, les couleurs, les lignes qu'il y a dedans, c'est plus important que l'éventuelle scène ou objet que jusque-là elle était censée représenter. Enfin, en gros, on est, une chose est sûre, c'est que Mirbeau a fait partie de ce mouvement qui a permis à la fois aux peintres d'agir dans ce sens et jusqu'à un certain point à des critiques comme Mirbeau, comme Fénéon, de théoriser ça beaucoup mieux. Alors, incidemment, je rappelle...
Pardon, vas-y. Un tout petit peu, parce que pour ajouter, chez Mirbeau, il y a aussi l'idée quand même que, ça rejoint un peu ce que tu disais, il y a à la fois le peintre qui a montré que ce qui est présenté est plus important que ce qui est représenté, mais il y a aussi celui qui regarde, qui doit regarder cette image-là non plus uniquement avec son intelligence, en se disant, alors ça fait référence à telle chose, mythologie, etc., mais c'est regarder l'image avec sa sensibilité. C'est pour ça qu'il y a l'idée de révolution du regard, c'est regarder quelque chose, mais avec sa propre sensibilité, et c'est ce que à chaque fois Mirbeau insiste là-dessus. Lui, il a été touché par quelque chose, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a acheté le premier, hein. Les tournesols, premier propriétaire, c'est Mirbeau.
Wow. Alors incidemment, à nouveau, dans mon métier de guide touristique, il y a une question que je pose absolument à tout le monde, quasiment tout le monde, en tout cas quand je fais des visites qui ont un quelconque lien avec l'art, et c'est une question extrêmement simple, je demande aux gens... quel est le nombre minimal de créateurs indispensables, pour qu'une œuvre d'art soit une œuvre d'art ? Donc, quel est le nombre le plus bas possible, en dessous duquel une œuvre d'art ne peut pas être une œuvre d'art ? Alors, évidemment, je vais dire que 85%, 90% des gens me regardent comme si j'étais une nouille et disent « la personne qui fait l'œuvre d'art ». Évidemment, je les regarde, moi... avec arrogance, je suis le mec qui sait. Hein. Non, désolé. Ah, il me raconte tout un tas de choses. Celui qui apporte la toile, celui qui a fait les tubes de peinture, celui qui apporte les blocs de marbre. Enfin bon, bref. Et puis, bien entendu, non. Il y a deux personnes. La personne qui crée l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, et puis la personne qui perçoit l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Et j'explique aux gens que le David de Michel-Ange, la nuit, c'est un gros caillou. Quand il n'y a personne qui le regarde, que les nymphées à de Monet, quand personne ne les regarde, c'est beaucoup de toiles et beaucoup de pâtes colorées. Qu'un roman que personne ne lit, c'est du papier avec de l'encre dessus. Et que donc, par définition, le spectateur ou la spectatrice sont les co-créateurs des œuvres d'art.
Et ça, c'est qui avait bien réglé ça, quand même, d'une phrase terrifiante, c'est Marcel Duchamp qui dit « c'est le spectateur qui crée l'œuvre d'art ».
Exactement. Exactement. Hein, et c'est également, il y a Magritte qui va faire son célèbre tableau. Voilà. Ceci n'est pas une pipe avec une pipe. Mon très cher Nicolas, nous infligerais-tu une dernière pause musicale ? Alors attention, Nicolas est prêt. Alors j'entends son. Il s'échauffe le doigt. On entend clic, 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 clic. Et ça va se déclencher. Nicolas, c'est à toi.
Les dessous chics, ce n'est rien dévoiler du tout. C'est dire que lorsqu'on est à bout. C'est à vous. Les dessous chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme un paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les dessous chics, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Les dessous chics, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Oui, bien sûr, c'était Jane Birkin, les dessous chics. Vous êtes bien sûr Radio Libertaire, 89.4, en compagnie de Jean-Manuel et des muses s'amusent.
Muses ont été consacrées ce soir au cahiers Octave Mirbeau numéro 29, publié sous la direction de Samuel Lair par la société Octave Mirbeau chez les classiques Garnier. Nous avons parlé de tout un tas de livres, tous plus intéressants les uns que les autres. Le livre de Yannick Lemarié, Arsène Crié, journaliste, anarchiste et boulangiste. Le livre de Alain Leduc, alors Yannick Lemarié dans le studio. Et le livre d'Alain Leduc dans le studio, lui aussi, Octave Mirbeau, le gentleman vitrioleur. Nicolas nous avait apporté La révolution du regard par Octave Mirbeau. Yannick Lemarié nous a parlé du livre de, comment elle s'appelle déjà, Schilknecht, et de son prénom, Clara Schilknecht, Hardy Compagnon, masculinité et virilité anarchiste à la belle époque. Et je vais donc simplement rappeler rapidement tout ce qu'il y a dans ces cahiers Octave Mirbeau qui sont d'une remarquable richesse. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est Mirbeau et l'Académie Goncourt. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles sur Octave Mirbeau et les membres de l'Académie Goncourt. Alors, j'ai appris des tas de choses sur J.H. Rosny, j'ai appris quelque chose sur Léon Blois. Décidément, c'était vraiment un fils de pute terminé. Bon, excusez-moi pour les travailleuses du sexe que j'insulte sans raison. Ah, mais quel style!
Les points de suspension,
c'est... Ah non, mais Léon Blois, c'est ça le problème, c'est vraiment, on regrette qu'il ait été catholique, parce que s'il avait été anarchiste, qu'est-ce que ça aurait été marrant. Et puis ensuite, c'est la deuxième partie des cahiers, c'est Mirbeau et l'anarchie, avec tout un tas d'articles fort intéressants par, justement, Yannick Lemarié qui est dans le studio, dont en particulier un article sur les rapports de police au sujet d'Octave Mirbeau. On peut imaginer que c'est tout à fait hilarant. Un article sur un très très grand écrivain, Octave Mirbeau et Élisée Reclus. Et donc, à nouveau, récemment, Ronald Crick, décédé récemment, nous a fait redécouvrir Élisée Reclus. Et là, comme nous avons parlé de Sacha Armazoche, Nicolas, qui est caché derrière le micro, nous a néanmoins glissé un scoop. Nicolas, aurais-tu l'amabilité de révéler à toutes et tous la nature de ton scoop?
Alors, le scoop, c'est simplement qu'une des sœurs d'Élisée Reclus, je crois que c'est Johanna, mais je ne suis pas absolument sûr du prénom, a traduit un roman de Sacha Armazoche. Je ne suis pas capable de dire quel titre, mais voilà.
Donc c'est quand même merveilleux.
La plupart des sœurs d'Élisée Reclus faisaient des travaux de traduction.
La fille d'un pasteur protestant qui traduit de la pornographie masochiste germanique. C'est quand même absolument fabuleux.
Je ne sais pas si le roman qu'elle a traduit était de cette nature.
Ah ben non, Sacha Armazoche, en gros, il n'a écrit... Il essayait d'écrire autre chose, et en deux pages, bloup, ça revenait au même thème. Un article important de Marie-Pierre Tardif sur la représentation des rapports de genre dans le Calvaire et le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Un article sur un traducteur d'Octave Mirbeau. Un article à la fois réjouissant et, excusez-moi, un peu incompréhensible, de Jacques-Philippe Saint-Géran sur Félix Fénéon et ses lecteurs. Alors, l'avantage de l'article, c'est qu'il cite Félix Fénéon. Alors, on parlait de style. Alors, Léon Blois, franchement pas mal. Mais alors, Fénéon. Fignon, c'est à se mettre à genoux tellement... c'est quelqu'un qui a tellement
appelé les histoires en trois lignes.
Voilà, donc c'était les fameuses nouvelles en trois lignes qu'il publiait pour Le Matin. Et il prenait des faits divers et la règle était absolument brutale. Il avait trois lignes, mais vraiment trois lignes très très courtes. Et il raconte ces faits divers d'abord d'une manière incroyablement poétique, extraordinairement dense, hein, trois lignes. Et à chaque fois qu'il pouvait... il s'arrangeait pour insulter les flics, les magistrats, sans qu'on puisse rien lui dire.
Un rôdeur suspect est arrêté par la police. De Point, c'est un ramasseur d'escargots les jours de pluie. c'est fantastique. Voilà,
c'est tout le temps comme ça. On ne peut rien lui dire. Et en même temps, c'est d'une méchanceté anti-pouvoir qui est absolument réjouissante. Et puis, encore quelques autres articles, hein, sur le testament patriotique d'Octave Mirbeau, et quelques actualités, et quelques documents. Bref, un livre absolument riche, si vous voulez, comme moi, en savoir plus sur cet écrivain bizarre, intense, surprenant. Et il y a un mot qui revient assez souvent dans ces critiques, déconcertant. Je crois que ça... Enfin, en tout cas, moi, c'est aussi l'effet que me fait Mirbeau souvent.
Oui, c'est une personnalité qui tranche dans l'époque quand même. C'est-à-dire que même ses romans. Mm-hmm. C'est vrai que c'est aussi une période où le roman est en train de chercher de nouvelles voies. Donc Zola essaye d'explorer de nouvelles voies avec les trois villes ou les quatre évangiles. On voit que Gide aussi commence à chercher d'autres voies. Et puis Mirbeau, lui, crée une voie particulière en faisant des romans un peu patchwork. C'est-à-dire qu'il fait il a des morceaux comme ça qui l'assemble et ça constitue des romans assez réjouissants. Que ce soit Dingo, par exemple, où il raconte toutes les aventures qui arrivent à son chien, un chien Dingo qui est, alors lui, pour le coup aussi, un véritable anarchiste.
Oh oui. Dès qu'il voit du gendarme, il grogne. Hein.
Voilà, c'est ça. En revanche, dès qu'il voit un malheureux, un vagabond, il va l'aider, il se précipite, alors que tout le monde, toute la foule est en train de le huer, lui, il se précipite pour le lécher.
Alors, il donne le nom à un roman, c'est un des premiers à l'avoir fait, et le narrateur et le héros principal est un chien, Dingo australien.
Ouais, ouais.
Mais son roman précédent, il fait la même chose, mais avec une voiture. Ouais. Et il suit les aventures d'une voiture à travers l'Allemagne.
Est-ce que vous avez tenté la recherche à ce moment-là de l'origine du mot Dingo en français? Est-ce que ça viendrait du roman de Mirbeau? Parce que moi, je me suis toujours demandé, le personnage de Walt Disney, on l'appelle en français Dingo, mais en fait, en anglais, il s'appelle Goofy. Mmh. Donc, il n'y a pas eu la filiation, les dingos australiens et le dingo de Walt Disney. Donc, moi, je me suis toujours demandé d'où venait Dingo en français. Peut-être que ça...
Dingo, chez Mirbeau, c'est l'Australie. C'est le chien australien, quoi.
Donc à ce moment-là,
En même temps, le mot dingo, quand on connaît Mirbeau, il n'est pas neutre, ça veut dire aussi...
Non, mais est-ce que le mot dingue existait à ce moment-là, avant Mirbeau.
Mais il y a aussi beaucoup à cette époque-là de mots comme ça, un peu dépréciatifs, qui étaient avec des O. Hein.
Oui, bien sûr.
Notamment au cinéma, puisqu'on parlait de Dingo et le chien de Walt Disney, mais parce qu'on avait Charlot, on a fait Frisco ou Frigo, Dingo. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi, ça jouait un peu là-dessus aussi.
D'accord. En tout cas, notre cher Nicolas va nous servir, une dernière ou un petit générique de fin. En tout cas, on vous remercie grandement. On remercie Alain Leduc, donc avec son livre Octave Mirbeau, Le Gentleman vitrioleur paru aux éditions Liberté. On remercie Yannick Lemarié avec ses contributions au cahier Octave Mirbeau et son livre Arsène Crié, journaliste, anarchiste et boulangiste. Et merci Nicolas de ta contribution à la technique hertziano-digitalo-anarchico-fédérationico, sans dieu, sans maître et sans publicité, Servet Chaud. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, ni maître, ni publicité.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est. Puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir sur notre histoire mal engagée. La pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Et l'envers de sa peau, l'œil glacé des Vénus qui s'acharnent à plaire, brebis cent fois mordues rejoignant le troupeau, quand l'oiseau de ténèbres rejoint son repère, tous les oiseaux de nuit s'endorment à l'aurore. Alors je regagne ma chambre d'hôtel, mais la nuit
Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria, o Radio Libertaire 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89.4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaria 89.4.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaria
89.4.
راديو التحرري 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
On m'appelle la télé, la montreuse à tout va. Avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits. Je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback, et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique. Et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce, je leur dis jugez vous-même. Un ministre à l'année que le trottoir indispose entre deux cabinets fréquente ma télé close pour les yeux affamés qui vont chercher fortune dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé, des familles et tout ce qu'il y a de mieux. J'ai des ministres occultes à qui je fais les yeux. Je suis la télé partout, finalement, faut bien le dire, qu'importe la partout, quand c'est pour le plaisir. Des fois je suis l'invisible, j'en ai qui marche à ça. T'as pas vu mon coco, mes soutiens caméra. Quand je suis exciting, y a de drôles de poulets qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. Qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. On m'appelle la télé et je fais tous les quartiers avec mes pattes en l'air. J'ai le voyeur assuré, l'Olympe s'est vidé, le music hall du business. Alors pour le remplir, il tâte mon palmarès. Depuis que j'ai de la lecture pour tous, je suis un peu snob. Je bouffe avec mon terlan qui m'améliore mon job. Mais comme le vendredi, c'est le jour de la morue, mon Mac Panorama me fout au coin des rues. Mon Mac Panorama me fout au coin des rues. On m'a rappelle la télé de la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut. Je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment. Je fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père.
La sienne, plus pâle qu'une ombre qui boit de la verveine. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Depuis qu'il a vu le jour, il a trimardé sur terre, mais il a pas eu plus d'amour qu'un sac de pommes de terre. Il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Ses vieux l'ont pas reconnu, alors il est allé se faire voir par le monde et ses rues. Il a mangé son pain noir, on peut pas tard, ouais mais qu'on a, on a rien eu. Et nul n'a répondu quand il voulait savoir, et son cœur s'est fendu d'essuyer tant de déboires. Il est tombé des nues, il s'est même fait trottoir, puis porté disparu par des gens trop bavards. Chacun vaut son voisin, sauf quand c'est un vaurien. Et breloque, il a le scorbut à l'âme et son cœur soliloque. Sans but le pauvre diable, il a la tête tordue et sauré d'une oreille. C'est pas d'avoir trop bu, c'est d'être né bouteille. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. La mer, c'est elle qui le hante, dans son cœur une arrière, ses ondes écume qui chante, dans le miroir aux étoiles, dans l'océan sa planque, l'alouette en cavale, il a jeté son ancre. Il chante, mais c'est bientôt la mer qui vient couvrir sa plainte au creux de sa dernière bière. Il chante, son chant de vagabond, c'est maintenant la mer qui roule sa chanson, qui roule sa chanson.